Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Les gars, je suis à Marseille. Je marche au bord du vieux port là. Je suis loin de chez moi, loin de Paname, loin d'Assia et d'Idriss. Pourtant, je suis dans la ville de naissance d'Assia, hein. Marseille, c'est là d'où elle vient. Mais cette fois-ci, j'ai dû faire sans elle. Parce que je suis invité par le MUCEM pour parler de handicap, figurez-vous. Ouais, ouais. Moi, le mec qui avait du mal avec cette partie-là de mon identité, bah aujourd'hui, j'en fais des conférences. On n'est pas loin de l'escroquerie, non? ça me fait chelou. Franchement, j'ai l'impression d'être un peu un escroc. Mais bref, écoutez, ils veulent m'entendre, ils vont m'entendre.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour assister, mais aussi pour participer à ce nouveau procès du siècle du MUCEM. Et ce soir, c'est vraiment autour du premier motif de discrimination en France, c'est-à-dire la discrimination qui touche les personnes en situation d'handicap. Selon le rapport 2021 du Défenseur des droits, les personnes vivant avec un handicap aurait en effet plus de difficultés que les autres pour trouver un emploi, accéder aux services publics, se loger ou encore se former, et cela ne va pas en s'arrangeant. Que faire alors? Quelle politique publique faut-il mettre en place pour réduire l'écart entre les intentions affichées et l'effectivité des droits des personnes en situation d'handicap? Pour animer ce procès aujourd'hui, j'appelle nos deux grands témoins, Fabienne Jégu, conseillère experte handicap auprès du Défenseur des droits, et Redouane Talha, producteur de radio et journaliste à France Inter. Merci d'être venu.
Merci. Pour le coup, moi, je pense que le message est clair. L'espace public n'est pas accessible aux personnes handicapées parce qu'on ne veut pas des personnes handicapées dans l'espace public. Parce que je pense qu'on refuse de voir le handicap, on refuse de voir la différence en France. Et c'est aussi pour ça qu'on ne fait rien. C'est parce qu'on considère que le handicap et la différence n'a pas sa place en France. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'universalisme.
Et ça, c'est le ressenti d'aujourd'hui ou c'est un ressenti que vous avez depuis toujours?
Ça a un peu évolué.
Ça a évolué dans quoi?
Ça a évolué dans le bon sens. Il y a 30 ans, c'était pire que cela. On revient de loin, mais on n'y est pas encore. Le handicap n'a vraiment pas sa place. Il suffit de voir des chiffres sur la représentation dans la fiction, par exemple.
À partir de ce jour, dès que j'allais quelque part, je le faisais en courant.
Pas de tête, mais il a des jambes, ce petit.
Hé, crétin!
Extrait donc de Forrest Gump, film tourné il y a tout juste 30 ans avec Tom Hanks, sorti en 94, raflant tous les Oscars en 95. Pourquoi, Redouane Talla, avez-vous choisi ce film de Robert Zemeckis ?
Eh ben, très sincèrement, pendant des années, quand j'étais gamin, j'étais incapable de voir ce film. Il était trop violent. Et j'arrivais pas à expliquer pourquoi. Mais vraiment, j'arrivais pas à regarder ce film. Et je l'ai vu il y a quelques années, et j'ai compris. Point positif, il y a une représentation du handicap à une époque où il n'y en avait pas dans la fiction. En plus, deux handicaps, un handicap mental et un handicap physique. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, il y a tout ce qui me dérange dans la représentation du handicap. Là, dans cette séquence, c'est dingue. Je ne sais pas si on se rend compte, mais il est résilient. Il se fait harceler par des gamins en raison de son handicap mental. Et sa résilience le pousse à courir, courir à tel point qu'il arrive enfin à se libérer de son handicap physique, comme si c'était possible dans la vie de tous les jours. Et Forrest Gump, on l'accepte parce qu'il est performant, parce qu'il est fort, parce qu'il court partout dans le monde. C'est ça qui le rend digne d'être accepté, digne d'être aimé. De la même manière que, dans un autre film de cette époque-là, Rain Man, on acceptait l'autiste parce qu'il était hyper intelligent. Mais moi, en réalité, je me rends compte que ça me dérange. Alors, c'est paradoxal parce que j'ai cherché la performance avec mon podcast et mon projet de marathon, mais de l'autre côté, je revendique, et je sais qu'on en a besoin, les personnes handicapées doivent être médiocres comme les autres. Les personnes handicapées doivent être... ouais, voilà, comme les autres. Je comprends pas comment la fiction nous a poussé à croire, mais pas que la fiction, à croire qu'il fallait sans cesse se dépasser, sans cesse être résilient, sans cesse accepter, ne jamais se plaindre. Et là, t'es accepté. Regardez les figures médiatiques du handicap, Philippe Croizon. C'est quoi cette idée de traverser sans ses bras, sans ses jambes, Théo Curin, pareil. À jamais, dans l'espace médiatique, on ne voit, je sais pas, au hasard, danser dans l'air, un chercheur qui est juste chercheur, mais handicapé. Non. Quand on a une personne handicapée dans les médias, il faut qu'elle soit exceptionnelle. C'est peut-être pour ça, au fond, que j'ai voulu faire le marathon pour moi aussi exister.
Petit running autour du vieux port. J'ai passé une sale nuit, donc c'est quasi miraculeux que j'arrive à courir. C'est Rama. Il y a un chien qui a trois pattes, handicapé, putain. Il aurait pu participer hier à la conf. Ouais, je suis content. J'ai assez bien couru ce matin. Assez bien couru. Et puis, hier, je me suis vite couché après la conf, qui s'est plutôt bien passée. Au départ, j'avais un petit souci d'illégitimité. J'étais à côté de la référente handicap auprès du défenseur des droits. D'ailleurs, vraiment, je tiens à dire aux personnes handicapées qui souffrent de discrimination, qui ont des problèmes avec l'administration, avec le taf, etc. C'est vrai que moi, j'y ai jamais pensé. Pourtant, j'ai été confronté assez régulièrement à de la grosse discrimination. Mais saisir le défenseur des droits, c'est hyper pratique. Franchement, on en a pas mal parlé ce matin. Ils sont assez réactifs. Et ça permet de faire bouger les choses. Donc voilà. Non, c'était bien hier. C'était bien, il y avait un super public. Je sais pas si certains d'entre vous étaient présents. Mais hyper réceptifs. Et puis, putain d'endroit, quoi. J'adore ce musée déjà au départ. Mais là, il y avait un petit côté... une nuit au musée. On était... À la fin, on était seuls au milieu de ses œuvres. C'est assez dingue quand même. Je suis un putain de privilégié là-dessus. Bon, programme de la journée, je vous explique tout. Déjà, je vais prendre un bon petit déj là. Et puis ensuite, je rencontre un petit gars à qui j'ai parlé sur Twitter. Je pense qu'il a une histoire qui va vous passionner. En tout cas, il y a beaucoup de similitudes avec la mienne. Et c'est un mec, on se suit depuis pas mal de temps parce que passionné par la NBA. On fait partie de ces noctambules qui tweetent sur les performances de LeBron, Giannis et autres. Et non, c'est un mec que j'aime bien. C'est la première fois que je le rencontre. Et vous allez voir, vous allez le kiffer.
Bonjour, ben moi c'est Enzo Deric, j'ai 22 ans. Et du coup, mon handicap, c'est que j'ai eu un cancer à la naissance avec une tumeur qui a enveloppé ma colonne vertébrale et qui, en gros, m'a privé de pas mal de capacités physiques et sensorielles au niveau des jambes. Donc, je porte des attelles de marche pour m'aider, ne serait-ce qu'à marcher, tenir équilibre, etc. Et voilà, j'ai perdu pas mal de capacités au niveau de la jambe gauche surtout, un peu moins de la jambe droite, mais quand même. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je boite, j'ai du mal à courir, à tenir équilibre, à sauter. Et j'ai les mollets atrophiés.
Concrètement, quand tu étais gamin, du coup, tu marchais pas ?
J'ai marché à 5 ans, du coup. Donc déjà, forcément, l'école élémentaire, c'était très compliqué pour moi. Parce que je pouvais pas forcément y aller, étant petit, parce que je tenais pas. Ensuite, parce que j'avais des béquilles. Et ouais, après, à l'école, surtout l'école primaire, j'ai beaucoup galéré. Parce que forcément, les petits sont un peu méchants. Mais après, plus j'ai grandi, surtout dans mon adolescence, où j'ai réussi déjà moi, à assimiler mon handicap à moi, et faire avec, pouvoir progresser grâce à la rééducation et surtout grâce à un entourage sain qui me poussait toujours vers le haut.
Et à quel moment tu t'es dit bon, je suis à l'aise avec mon corps, je suis à l'aise avec mon handicap?
En vrai, quand j'ai découvert le basket, parce que forcément quand t'es petit, t'as toujours envie de faire du sport avec tes collègues à l'école, etc. Moi je voulais jouer au foot, sauf que je pouvais pas parce que terrain grand, ballon, tu joues avec les pieds, j'ai pas de jambes. Tout comme ça. Alors quand j'ai découvert le basket, que j'ai découvert qu'avec mes bras j'étais capable et qu'en soi j'étais pas si amoindri que ça par rapport aux autres, c'est là que je me suis dit en fait je peux faire des trucs.
C'est marrant ce que tu dis parce que moi je viens d'une famille avec une grosse culture foot et mon frère il me poussait à fond pour que je fasse du foot, sauf qu'il comprenait pas qu'avec mon handicap c'était chaud, tu vois, je suis nul. Et par contre le basket, étrangement, c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus inclusif. Toi tu l'expliquerais comment?
Parce que quand on est petit, la consommation de foot est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile. Donc on regarde tous la Ligue des Champions, on regarde tous la Ligue 1, et on voit des aliens jouer. Donc forcément, on va se dire « Ah mais lui, il ne sait pas faire ça ». Tous sur un terrain, quand on était petit, on voulait faire le flip-flap de Ronaldo, on voulait faire la volée de Zidane, on voulait tous faire. Donc forcément, quand tu es handicapé des jambes, surtout, tu n'es pas capable de le faire, les petits vont rapidement le constater. Alors que quand tu as 8 ans, concrètement, tu consommes pas tant de basket que ça de tes yeux en match, au pro, etc. Donc, tu peux plus facilement avoir droit à l'écart, droit aux erreurs, parce que tout le monde en fait quand t'es petit. Alors qu'au foot, à 8 ans, je pense que t'es déjà beaucoup plus avancé en termes de foot et de technique que tu l'es au basket. Donc, comme tu te trompes et tu fais des erreurs comme tout le monde, ça passe plus mieux visuellement. Donc, c'est moins choquant et on va plus vouloir jouer avec toi.
Et puis, il y a aussi un autre truc, c'est que j'ai l'impression qu'au foot, des gamins, on essaie de former des champions. Et il y a une grosse pression sur les gamins, tu vois. En ce moment, c'est le délire projet Mbappé. Mais en réalité, ça fait bien longtemps qu'ils sont tous fous. Moi, je vois les coachs de foot, parce que j'étais dans un club où il y avait une grosse équipe de foot qui jouait en national. Et mon club de basket, il y avait une équipe de foot à côté. Et je voyais, ils mettaient une pression sur les poussins qui était délirante, avec des gros entraînements fonciers, etc. Il n'y avait aucun plaisir de jeu. Alors que j'ai l'impression qu'au basket, en réalité, on accueille tout le monde et on essaie de faire en sorte. Moi, j'ai vu même des joueurs ultra claqués, ils avaient leur place dans des équipes, alors qu'au foot, ça n'existe pas.
Franchement, ouais, t'as un peu tout dit dans le sens où, comme t'as dit, le projet Mbappé, tout ci, tout ça. Donc, ça matrixe beaucoup d'entraîneurs et même de parents, hein, concrètement. Les parents chiants, c'est beaucoup plus au foot qu'au basket, même si au basket, il y en a forcément, comme dans tous les sports. Mais je suis assez d'accord avec ça. Et aussi, concrètement, un déficit physique sur un terrain grand comme celui de foot, ça a beaucoup plus se voir que sur un terrain de basket qui fait une quinzaine de mètres. Oui, à peu près, ouais. Donc, franchement, je pense que ça joue.
Et toi, d'où te vient cet amour du basket? C'est quoi la première image de basket que tu as eue dans ta vie?
En soi, la première image de basketteur que j'ai dans ma vie, c'était sur MTV avec les clips de Tony Parker. Donc en soi, le premier basketteur que j'ai vu, c'était Tony Parker. Mais après, quand j'avais à peu près 8 ans, 9 ans, sur Canal Plus Sport, souvent à 11h du matin, il y avait des rediffs de NBA. Et j'étais tombé sur une rediff d'un match de Finals NBA Celtics Lakers. Et je me suis dit, oh, c'est quoi ce sport de dingue? c'est quoi ce sport de dingue? Je voyais Kobe faire des dingueries, je voyais Rondo faire des passes de fou. Je me dis, c'est quoi ce sport de dingue? Et du coup, c'est à partir de là que je me suis intéressé. Et je me rappelle, le premier réflexe que j'ai eu, c'est allumer ma Xbox 360, aller sur le Microsoft Store et chercher la démo du jeu de basket. J'ai téléchargé et j'ai joué pendant des jours et des jours, alors que c'était qu'une démo. Et je refaisais tout le temps le même match. Et c'est là que je me suis dit, non, en vrai, ce sport, c'est trop bien. Et après, direct après YouTube, NBA, moment fort, tout truc comme ça. Et je consommais. Et dès que j'ai eu l'occasion, surtout grâce à Beansport, quand ils sont arrivés sur le marché de la NBA, qu'ils ont fait beaucoup plus de basket, bah, à partir de là, je commençais à vraiment consommer du basket. Puis avec l'équipe aussi, quand Nanterre était champion de ça, ça passait souvent sur l'équipe. Et je regardais sur l'équipe tous les matchs de proie que je voyais et je kiffais.
Alors, il faut quand même raconter que moi, j'étais capté parce que tu as un média social aujourd'hui qui s'appelle Locked In, notamment sur Twitter. Peut-être sur les autres réseaux, moi je te suis sur Twitter. Et donc gros passionné de basket. Mais moi, ce que j'ignorais, je voyais de temps en temps des vidéos de toi sur des terrains et tout. Mais je savais pas que t'étais handicapé. Et là, en l'occurrence, je le vois, t'as des ATL, tu me dis que t'as des muscles atrophiés, donc je te crois. Hein. Tu boites, etc. Et t'as joué au basket. Alors, ça s'est passé comment?
Au début, forcément, c'était compliqué. Déjà, ne serait-ce que pour convaincre mon père, parce que c'est un peu triste, mais dans la tête de mon père, sachant que j'avais deux grands frères, dans la tête de mon père, j'étais un handicapé et j'étais pas capable. Donc c'est triste, mais c'est un peu comme ça pour beaucoup d'enfants vus par leurs parents. Mais aussi dur parce que j'étais suivi par le CESAD, qui est un centre social de rééducation pour enfants handicapés. Donc convaincre un peu toute cette team d'adultes un peu bornés, j'ai envie de dire, et beaucoup avec leurs clichés, leurs a priori sur l'enfant handicapé, de dire oui, je suis capable de jouer, pour eux c'était non, t'es pas capable, tu ne vas pas jouer, c'est trop dangereux pour toi. Donc déjà convaincre ces adultes là c'était extrêmement compliqué, mais surtout encore plus de trouver un club qui se dise oui, on te prend. Et j'ai eu la chance d'avoir un surveillant dans mon collège qui s'appelle Abou, que je remercie encore aujourd'hui quand je le vois, qui lui était entraîneur de basket dans un club et qui m'a dit mais viens, moi je te prends, il n'y a pas de souci, parce que tous les matins on se voyait, on débriefait la NBA. Donc il savait que je connaissais le jeu, que j'étais capable de réfléchir, que même si j'avais des capacités moindres, j'étais capable de jouer. Et donc ça a été mon surveillant qui m'a permis l'accès au basket en club. Forcément au début j'ai galéré parce qu'il faut un peu te réinventer, trouver ta place sur un terrain, et quand t'es jeune c'est plus compliqué que quand t'es adulte. Mais au final j'ai réussi à me dire, je suis sur le terrain, il faut que j'apporte quelque chose. Je sais que par exemple courir je peux pas le faire, aller au contre-attaque je peux pas le faire, défendre un contre un je peux pas le faire, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est me déplacer intelligemment, shooter, parce que je savais que quand t'es jeune c'est une qualité quasiment inexistante jusqu'à un certain niveau, et ça t'apporte du temps de jeu. Et surtout avoir une certaine exigence avec moi-même dès l'entraînement, ce qui m'a valu toutes mes années où je jouais d'être le capitaine de mon équipe, même s'il y a des matchs où je jouais pas du tout, des matchs où je jouais quelques minutes, mais toutes les années j'étais le capitaine de mon équipe parce que j'arrivais à être rigoureux à l'entraînement.
Et concrètement, comment t'arrives à compenser tes difficultés sur un terrain? Par exemple, tu me dis que tu cours moins, que tu cours moins vite, que c'est compliqué, etc. Sauf que, à en croire ta taille, sans trahir un secret, je crois que t'es meneur. En général, les meneurs, ils courent vite, ils courent beaucoup, ils se déplacent énormément sur un terrain. Il y a une grosse partie du jeu sans ballon, etc. Comment tu fais? Comment tu gères?
Déjà, je fais 1m65 déjà, pour ceux qui écoutent. Mais surtout, oui, moi, mon rôle sur le terrain, ça va être déjà d'organiser l'équipe. Donc, comme tu as dit, je suis meneur, mais la différence, c'est que je suis un peu meneur sans ballon. Dans le sens où moi tu mets une pression un contre un, je te lâche la balle parce que je vais pas pouvoir tenir. Mais là où je vais pouvoir être valuable un peu pour une équipe, ça va être dans mes déplacements, dans la défense collective, c'est-à-dire je vais beaucoup communiquer avec mon équipe, beaucoup indiquer, savoir quand aller dans l'aide, quand ne pas aller, savoir comment ne serait-ce que gêner le vis-à-vis que j'ai en lui fermant un côté ou l'autre. Et surtout comme j'ai dit avec un shoot, des petits, moi je savais par exemple, c'est une anecdote, je n'ai jamais mis un seul double pas dans ma vie en match officiel. Alors que, jamais, parce que je sais.
C'est la base du basket, pour ceux qui ne connaissent pas.
C'est la base du basket, c'est la première chose qu'on t'apprend quand t'es petit. Je sais les faire, hein. Tu mets main droite, main gauche, je sais les faire, pas de soucis.
Ouais, j'ai vu des vidéos où tu faisais des doubles pas.
C'est ça, donc en soi, je peux, mais j'y vais pas parce que très souvent, faut prendre de vitesse, soit, donc je n'ai pas. Mais vraiment, mon record de points en match, c'est 18 points, que des 3 points. parce que je sais, en fait, je sais un peu me faire oublier. Je sais profiter un peu de peut-être la laxitude que vont me laisser les défenseurs. Et toujours bien positionné pour offrir une sortie de balle à l'intérieur ou quelqu'un qui est un peu en galère. Et pour arriver à avoir un shoot plus ou moins fiable pour servir à l'équipe.
Et sur le terrain, on sait qu'il y a une grosse culture du trash talk au basket. Moi, j'en ai beaucoup fait dans ma jeunesse. J'en ai été beaucoup victime. Moi, je peux raconter mille et une anecdotes. Moi, je me suis fait suspendre parce qu'il y a un mec qui parlait trop de mon handicap et j'ai fini par le tabasser sur le terrain. Donc je sais ce que c'est. Comment tu gères cette partie-là des gens qui te méprisent, soit qui t'insultent carrément? Parce que c'est jamais facile en réalité quand t'es handicapé d'assumer ce genre de truc.
Moi concrètement, plus le gars me méprise, plus ça m'arrange parce qu'il va pas défendre sur moi et je vais pouvoir un peu lui mettre sur la tête. Mais j'ai en tête un match précis où moi, étant moins mobile, je vais très rarement défendre sur un meneur ou un porteur de balle. Je vais essayer de prendre un gars un peu plus grand parce que je vais pouvoir le gêner déjà par une petite taille sur son centre de gravité pour aller chercher la balle. Mais surtout, je vais réussir à peu près l'orienter pour le gêner dans sa finition. Et à un moment, il y a un gars qui rentre où il fait peut-être 1m80 ou j'en fais 1m65. Et je dis oui, c'est pour moi. Il vient se positionner, il me regarde, il rigole. Je l'ai lock, il a pas mis un seul point. Il est sorti, il a mis un coup de pied dans son banc. Son coach a dit oh, tu fais quoi? Il a dit t'en fends ta gueule. Il apparaît comme ça sur mon coach. Et il est totalement sorti de son match parce que le gars est méprisé et qu'il se dit pas ah, peut-être que ok, il va pas courir quoi, mais il sait faire ci, il sait faire ça. Donc moi, quelqu'un qui me méprise, je vais prouver sur le terrain. Mais là où ça va plus me faire chier, encore en match officiel, j'en profite parce que c'est un match officiel, je veux gagner. Mais par exemple, si je vais jouer sur un playground ou quoi, quelqu'un qui va pas défendre sérieusement ou quoi, je dirais ah, c'est bon, respecte-moi. Je suis là sur un terrain valide. C'est pour jouer au basket, joue au basket. Si je tombe, je tombe, c'est comme ça, c'est le jeu. Si je me fais mal, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais respecte-moi et joue au basket.
Et t'as utilisé un terme, donc basket valide, on l'aura compris, tu joues avec des valides. Est-ce que t'as pensé un moment à faire du handi-basket?
Eh ben, c'est assez fou, mais il y a l'équipe de France d'handi-basket qui m'a proposé d'intégrer l'INSEP. Parce que forcément, à Marseille, un handicapé qui joue, c'est un peu inhabituel. Donc forcément ça a fait un peu de bruit, donc les gens me connaissaient. Mais un jour je vais à un match de Fos-sur-Mer et il y a un gars, il vient me fait excuse-moi, c'est toi Enzo qui joue à l'MBB? Je fais oui. Il me fait ouais, voilà, ça fait longtemps que je voulais te contacter, voilà, je m'appelle Anthony, je fais partie du staff équipe de France de Handi Basket. On te propose de faire un tournoi d'essai avec nous pendant un week-end. Donc je vais faire leur tournoi, c'était un tournoi interrégion.
Donc c'est en fauteuil?
Oui, en fauteuil. Interrégion, avait la section PACA, la section Île-de-France, section Zébraf. Et à l'issue de ce tournoi-là, ils me disent, voilà, nous on te propose d'intégrer l'INSEP sur 7 ans et de te former pour les JO 2024, parce qu'ils avaient déjà à peu près le tuyau que ça allait sûrement se passer à Paris. Et eux, ils m'ont dit, ouais, on te forme, et jusqu'en 2024, tu fais partie de l'équipe, et avec l'objectif de faire un truc assez beau gosse en 2024. Sachant que je déteste ce sport handi-basket. Le handi-basket, c'est pas du basket pour moi. C'est des sensations totalement différentes. C'est pas forcément ce que j'aime. C'était surtout un gros sacrifice de quitter toute ma vie pour faire 7 ans à l'INSEP.
Mais il y avait les jeux. Ouais, il y avait les jeux.
Ça franchement, ça m'a fait hésiter. Mais au final, j'ai refusé parce que la contrepartie n'était pas assez intéressante pour me faire tout quitter. Surtout que moi, ce que j'aime, c'est le basket valide. Donc, c'est-à-dire, je devais quitter mon club, tout quitter. Là, actuellement, je suis coach de basket, donc j'aurais pas pu faire coach de basket aujourd'hui. Donc, non, au final, je regrette pas. Mais l'équipe Handi Basket France m'avait contacté.
On va reparler de ta partie coaching, parce que ça m'intéresse. Mais j'ai quand même envie de continuer à parler du côté handi, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas encore creusé totalement. Est-ce que, par exemple, si, dans le cas où tu faisais du basket qui ressemble à du basket valide, mais qu'avec des personnes qui ont à peu près ton handicap, donc avec des muscles atrophiés, est-ce que tu serais chaud ou est-ce que non, par principe, t'as envie de casser la gueule à des valides?
Un peu des deux, un peu justement, genre si je peux faire les deux, je fais les deux évidemment. De toute façon, moi quand j'arrive sur un terrain, je m'en fous de qui est sur le terrain, que tu sois atrophié ou LeBron James, je m'en fous. Mais si tu me fais une ligue des boiteux, mais j'y vais tous les jours, ça peut être tellement, tellement drôle, tellement dégaine. Tu te sentirais peut-être un peu plus mis en valeur, dans le sens où tu serais peut-être pas un role player, mais tu aurais vraiment un impact de quasi MVP. Et ça, c'est des sensations que forcément j'ai pas en valide parce que j'avais pas les capacités. Mais en termes d'ego, sachant que quand il y a les joueurs de basket, t'as toujours une part d'ego, me dire ouais, je suis that guy, c'est mon équipe, c'est moi, je les porte. Ça peut être quelque chose qui serait accessible dans une ligue de boiteux, pour faire être vulgaire, qui pourrait être plaisant. Ouais.
Écoutez, s'il y a des financiers, moi je suis chaud pour monter la NBA, la National Boiteux Association en France. Il n'y a que truc à faire. Tu l'as dit, t'es coach. Donc aujourd'hui, tu coaches des U20 et des U15, c'est ça? Moi, c'est le U15 qui m'intéresse. Parce que le U15, du coup, c'est des ados, c'est des petits cons. Comment ils réagissent, les gamins, quand ils se rendent compte que c'est un boiteux qui va les coacher?
Ils vont jamais dire les choses de face et direct. Ils vont toujours partir sur des petites subtilités en mode « De toute façon, je te froisse un V1 ». Comme c'est des U15 qui n'ont pas vraiment la technicité pour jouer d'un contre un, je les ratatine sans souci. Sans courir ou quoi, juste avec des appuis ou quoi, qui ne vont pas être habitués, ou même la triple menace qu'ils ne maîtrisent pas du tout.
Tu peux expliquer la triple menace?
La triple menace, c'est quand tu as ton dribble, la passe, bon, un contre un, du coup, il n'y a pas la passe, donc ton dribble et le drive. Et la passe, du coup, un triple menace. Donc ça, ils ne maîtrisent pas vraiment encore les espaces, comment je défends ci, comment je défends là, donc j'en profite. Mais j'ai en tête pendant un petit qui s'appelle Carnold. Je suis surveillant dans un collège. Par chance, Carnold est aussi dans ce collège, donc je le côtoie tous les jours et on rigole beaucoup tout le temps. À chaque fois, il me dit, ouais, enfin, au début de l'année surtout, il me dit, ouais, je te prends un contre un. J'ai allé prendre la balle, viens, je le ratatine 12-0 et on n'en parle plus.
Donc, dès qu'il y a du manque de respect, un contre un.
Avec le U15, ouais. Avec le U15, ouais, parce que ça va leur permettre de se dire, ah non, vas-y, j'ai parlé pour rien et en vrai, il est balèze. Et par exemple, il y a un truc un peu drôle, c'est qu'avec mon club, à chaque fois à Noël, on organise un peu une journée coach contre joueur. Et du coup, c'est du 5-5 sur vrai terrain. Mais là, j'ai pris la balle contre mes U15, donnez-moi la balle, tire. Et voilà, hein, et eux-mêmes, ils ont vu, ah non, en vrai, Enzo, il est quelqu'un, c'est quelqu'un.
Eh bien, écoute, je crois que ton projet, à terme, c'est d'être coach en pro. Il te manque quelques diplômes, d'après ce que tu me disais avant d'enregistrer. Mais moi, je souhaite, en tout cas, te voir sur un banc de pro, qui sait, peut-être... Coacher en Betclic Elite. Betclic Elite. Putain, c'est toujours dur à dire.
Ça reste la Betclic Elite.
Ouais, je pense que ça va changer d'ici là. c'est cool. Je suis content d'avoir fait ta connaissance. On peut te suivre sur Twitter. Donc c'est LockedIn.
LockedIn.fr.
LockedIn.fr, où tu parles de NBA au quotidien. Et puis voilà, on va continuer à te suivre, Enzo.
Bah, avec plaisir. Merci à toi de l'invitation, du coup. Et voilà, un plaisir, un honneur et toujours cool de pouvoir parler un peu de handicap et de sport, parce que trop souvent, surtout de sport valide, parce que trop souvent on va un peu juger tes capacités par rapport à ce qu'on voit, par rapport aux a priori qu'on a, sans jamais te dire peut-être qu'il peut compenser, peut-être qu'il arrive justement à se montrer valuable, se montrer utile à son équipe en s'appuyant plus sur des axes de jeux qui sont pas forcément primaires, mais qui vont servir à un moment du match. Donc toujours un plaisir.
On va conclure là-dessus. Vraiment, je pense que le meilleur moyen d'inclure, parle beaucoup d'inclusion, les personnes handicapées, c'est par le sport. Vraiment, moi j'ai sincèrement, ça a changé ma vie d'être au basket avec des valides, de me rendre compte qu'en compensant, en faisant certains trucs que les autres ne faisaient pas, etc., bah, je pouvais jouer avec eux. Et c'est une des plus belles sensations. On te revoit vite. De toute façon, je suis souvent de passage à Marseille.
Avec plaisir. On fera un petit playground si tu veux. Un petit open gym.
Je vais te froisser.
On verra qui est qui.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.